Europe Soir, le 18-20, Julien Bugier.
Et ce soir à 19h22, dans le débat du Club des Idées, on va vous parler de la folle histoire du Bitcoin. Une petite pièce virtuelle qui vaut désormais près de 20 000 $. Les cours s'envolent et suscitent l'engouement des investisseurs. Mais au fait, le Bitcoin, c'est quoi et comment ça marche? 6% des Français en posséderaient. Certains ont même fait fortune, on l'entendra, tout ça en restant devant son ordinateur. Alors est-ce le moment d'investir? Et comment expliquer un tel succès? On en parle donc ce soir avec Renaud Lifschitz, expert en cybersécurité et spécialiste du Bitcoin. Bonsoir. On en parle également avec Philippe Erlin, économiste et auteur de J'achète du Bitcoin aux éditions Erol Finance, paru en 2018. Bonsoir.
Bonsoir.
Et on en parle avec Alain Bessoussan, avocat spécialiste en droit du numérique.
Bonsoir.
Alors le Bitcoin, qu'est-ce? On va d'abord prendre, si vous le voulez bien, les choses dans l'ordre. Le Bitcoin, tout le monde en a déjà entendu parler, mais sans forcément bien en comprendre le fonctionnement. C'est une monnaie virtuelle qui est apparue en 2009. Comment ça marche d'abord concrètement? Qu'est-ce qu'un Bitcoin? Philippe Erlin.
Un Bitcoin, c'est une monnaie qui n'appartient à personne. Il n'y a pas une banque centrale ou une société qui gère le Bitcoin sur laquelle on pourrait mettre la main ou sur laquelle les États pourraient mettre la main ou poser des contraintes. Et c'est ça qui fait sa valeur.
Si j'en achète, ça m'appartient quand même.
Oui, ça vous appartient, mais personne ne contrôle le Bitcoin. Il n'y a pas une banque centrale, alors que l'euro est contrôlé par la Banque Centrale Européenne qui peut décider, en ce moment, avec la crise du Covid, d'en imprimer des quantités phénoménales.
Oui.
Le Bitcoin, y a un algorithme. Il n'y en aura pas plus de 21 millions, c'est comme ça, on ne peut pas le changer. Aucun État, aucune multinationale ne peut décider de changer ça. Et personne ne peut mettre la main sur le fonctionnement du Bitcoin. Et c'est ce qui fait sa valeur, c'est quelque chose d'indépendant des États. Et voilà, c'est un peu comme l'or, on pourrait dire l'or là, ouais, appartient à personne, l'or il y a une valeur. Voilà.
Et c'est que virtuel, Renaud Lifschitz, ça n'existe pas ni en pièces, ni en billets physiques, on ne peut pas le toucher, on ne peut pas l'avoir dans la poche, on le possède en fait virtuellement sur son ordinateur, sur son compte en banque.
Alors c'est essentiellement virtuel, effectivement, vous détenez juste les clés pour pouvoir les dépenser, mais en réalité... C'est un grand registre distribué, comme une banque avec des numéros de compte. En fait, on ne sait pas très bien à qui appartiennent les comptes. Et vous détenez les clés juste pour pouvoir dépenser vos bitcoins. Mais tout le monde peut voir en fait ce qu'il y a dans votre portefeuille.
Et c'est un objet spéculatif ou ça sert à acheter des vraies choses?
Alors, il y a des commerçants qui acceptent du bitcoin. Hein. En France, on a quelques centaines de commerces qui permettent de dépenser ces bitcoins, à savoir des restaurants, des bars. Et des boutiques aussi en ligne qui commencent à se développer.
Mais c'est pour spéculer quand même.
Mais non, il ne faut pas réduire le Bitcoin à la spéculation, même si c'est l'aspect dont on parle le plus. Le Bitcoin, c'est un instrument de liberté. J'ai dit que c'est quelque chose qui ne dépend pas des États. Donc oui, ça veut dire que si vous êtes dans un État qui est en train de manipuler la monnaie et de la faire s'effondrer, par exemple au Venezuela, où il y a une planche de billets phénoménale, une hyperinflation et les gens sont ruinés, eh bien au Venezuela, il y a beaucoup de gens qui utilisent le Bitcoin pour faire des transactions, et ceux qui ont un peu de Bitcoin, eh ben, ils sont sûrs de ne pas avoir faim. Voilà.
Mais c'est forcément des transactions d'ordinateur à ordinateur,
oui,
de compte en banque à compte en banque.
Ou de smartphone à smartphone. Il suffit d'un simple smartphone, on peut mettre un portefeuille Bitcoin, et à partir du moment, on peut en recevoir. Hmm. Et puis ensuite, dès qu'on en a un peu, on peut en émettre.
Et ça peut
devenir une monnaie parallèle par rapport à celle qui existe.
Et comment je fais pour transformer mes Bitcoins en euros? Imaginez, j'ai acheté il y a 5 ans... X centaines de bitcoins.
Ah,
d'abord, ça serait pas mal parce que 20 000 euros aujourd'hui, je serais très très riche, 20 000 $. Comment je fais pour les convertir en vraie monnaie, en euros?
En fait, c'est très simple. Il y a plusieurs places de marché en France, en Europe, partout, sur lesquelles vous ouvrez un compte. D'ailleurs, il faut s'enregistrer comme quand on crée un compte bancaire. Hein,
il faut un compte spécial.
Il faut créer un compte, donner sa pièce d'identité. Il y a beaucoup d'images qui circulent là-dessus, comme quoi ce serait une monnaie de la drogue, tout ça. Non, enfin, pour acheter des bitcoins, il faut faire un virement SEPA de sa banque, il faut s'enregistrer, il faut créer un compte exactement comme on crée un compte bancaire. Et puis ensuite, en fonction du taux du jour, eh bien, on peut soit acheter des bitcoins, soit les revendre en partie, voilà, en fonction d'un prix du marché. Aujourd'hui, c'est 20 000 $. Voilà,
Alain Bensoussan, les bitcoins, on dit que ça a été créé par un homme ou un groupe japonais connu sous le pseudonyme de Satoshi Nakamoto. Est-ce que c'est vrai et est-ce qu'on en sait plus sur ce personnage?
C'est l'histoire que l'on raconte. On n'a pas plus d'informations que celles que vous indiquez. C'est effectivement quelqu'un qui a créé un algorithme et qui ensuite, grâce à cet algorithme, a pu cristalliser. Alors ce que certains appellent, vous avez raison, tout le monde appelle la monnaie virtuelle, mais du point de vue du juriste, ce n'est pas une monnaie. Ce n'est pas une monnaie en ce sens que ce n'est pas protégé par un État. Mmh. Et en tant que tel, ce n'est pas une monnaie, c'est un actif virtuel. Mmh. C'est en fait une valeur de l'extrême. Oui. Une valeur de l'extrême.
Mais sauf que ça a une valeur et que les banques en achètent et que les particuliers en achètent aussi.
Alors,
aujourd'hui.
C'est bien, c'est pour ça que je disais que c'est une valeur de l'extrême. On peut l'acheter et on peut la revendre sur des places de marché. Et tant qu'il y aura des personnes qui accepteront de les acheter et d'autres de les revendre, il y aura un marché.
Il y aura un marché, c'est la loi de l'offre et de la demande. Alors il y a un truc absolument fascinant, moi j'ai découvert ça, c'est la manière dont sont produits et générés ces bitcoins. On en parle juste après la pause, à tout de suite.
Europe Soir, le 18-20, Julien Bugier.
19h31, on continue le débat du Club des Idées. Et ce soir, on parle de la folle histoire du Bitcoin, une petite pièce virtuelle qui vaut désormais près de 20 000 $. Et oui, ça n'est pas rien. On en parle avec nos invités, avec notamment Renaud Lifshitz, expert en cybersécurité, spécialiste du Bitcoin. Alors, question pour vous, car j'ai découvert, je le disais juste avant la pause, ce truc absolument incroyable, c'est que cette monnaie virtuelle est émise non pas par une banque centrale, mais fabriquée par des machines qui sont installées un petit peu partout dans le monde. Comment ça marche ?
Exactement. C'est comme une loterie géante, si vous voulez. Plus vous achetez de tickets, plus avez-vous de chances de gagner et donc de générer des bitcoins. À savoir que plus on met de systèmes informatiques concurrents, plus ces systèmes-là vont avoir une certaine émulation. Et plus vous avez de puissance de calcul, plus vous pouvez générer des bitcoins. Mais c'est tout à fait une loterie, c'est-à-dire que ce n'est pas parce que vous avez une très grosse machine que vous gagnerez à chaque fois. C'est vraiment en fonction de la puissance des ordinateurs de chacun. Ce qui fait qu'on a une répartition en fait, un petit peu aléatoire et une distribution un peu aléatoire.
Mais il y a une particularité là-dedans, si j'ai bien compris, Philippe Erlin, vous êtes économiste, c'est que ces machines ressemblent d'abord à de gros disques durs d'ordinateur qui vérifient la réalité des transactions et qui doivent, alors là c'est un petit peu compliqué et technique, mais c'est pour ça que c'est fascinant, qui doivent résoudre une équation mathématique qu'aucun humain n'est capable de résoudre pour pouvoir générer des bitcoins, c'est ça ?
Oui, c'est ça. Alors, la complexité, c'est quoi ? Il n'y a pas de banque centrale qui valide les transactions, qui dit un tel a envoyé telle somme à tel autre. Alors, comment on fait pour valider le fait que telle somme a été envoyée de telle personne à telle autre ? Eh bien, on prend une base de données partagée. Alors, pour prendre une image, vous imaginez un appartement en colocation,
oui.
Et il y a un cahier partagé par tout le monde où chacun va mettre ce qu'il va dépenser pour la nourriture dans le frigidaire. Et puis, à la fin du mois, on fait les comptes pour voir ce qu'a dépensé un peu plus et ce qu'on dépensait un peu moins pour compenser les choses. Voilà. Alors, ce cahier qui réunit toutes les dépenses, il existe sous forme informatique et il est dupliqué à des milliers d'exemplaires sur le web en temps réel. Et c'est comme ça qu'on valide les transactions. C'est-à-dire qu'on peut savoir que telle personne a envoyé telle somme à telle autre. Et cette base de données, elle ne peut pas être modifiée. On ne peut pas revenir dans le temps pour annuler une transaction, pour récupérer de l'argent dans sa poche. Ça, ce n'est pas possible à faire. Donc c'est un cahier partagé, base de données partagée. Et ceux qui font ce travail de validation, comme on expliquait tout à l'heure, eh bien, ils sont payés pour le faire. Ils touchent des bitcoins. Et ils touchent les petits frais de transaction qui sont très faibles, mais qui existent à cette occasion. Et donc, ils ont intérêt à faire.
C'est devenu un business.
C'est un business. Ceux qui font marcher le bitcoin gagnent de l'argent et sont incités à le faire.
Il y a ceux qu'on achète pour boursicoter, comme des actions ou comme des obligations. Et puis, il y a ceux qui ont décidé d'acheter cette grande machine, cet ordinateur super puissant.
Qui vont valider les transactions.
Pour valider des transactions et eux-mêmes gagnent de l'argent pour valider ces transactions. Ouais. C'est absolument fasciné. Alors, il y a quelque chose d'autre qui, moi, m'a fasciné en travaillant ce sujet. Alain Bensoussan, vous êtes avocat spécialiste en droit du numérique. C'est que la marque de fabrique du Bitcoin, c'est que dès sa création, on a dit qu'il serait produit en nombre limité. Seulement 21 millions. Et aujourd'hui, il y en a actuellement 18,6 millions en circulation. Ça veut dire qu'on arrive bientôt à maturité. On n'émettra plus de cette monnaie virtuelle.
Alors, c'est pas. D'abord, il y a énormément de monnaies virtuelles. On parle toujours du Bitcoin, mais il y en a plein d'autres. On en compte à peu près entre 1600 et 2000. Enfin, il y a toute une discussion. Donc, c'est pas. On peut pas dire que c'est une monnaie virtuelle, mais des monnaies virtuelles. Et il y a le Bitcoin qui va arriver à saturation. C'est encore dans assez longtemps. Mais il y en a plein d'autres qui arrivent. Il y en arrive tous les jours. Donc ça, c'est un premier élément. Il n'y a pas de limite, a priori, à émettre des nouvelles monnaies ou de nouveaux actifs virtuels. La limite, c'est ce que vous avez appelé ces gens qui font effectivement ce travail, ce qu'on appelle les mineurs. Il y a tellement de puissance, il y a des fermes de mineurs et le centre de gravité se trouve plus près de la Chine que de Paris. Hein. Soyons clairs là aussi sur cette situation-là. Et donc, il n'y a pas de limite en termes de monnaie virtuelle. Il y a une limite par monnaie virtuelle. C'est l'algorithme historique. là pour le Bitcoin, 21 millions, qui ne sera pas modifié. Et qui n'est pas modifié.
Je fais une parenthèse parce que ces ordinateurs géants, ça pollue énormément. J'ai vu qu'en 2018, la consommation d'énergie liée au Bitcoin était estimée à une production équivalente à la pollution d'un pays comme le Sri Lanka ou la Jordanie.
L'empreinte énergétique, effectivement, est très forte et dans l'informatique. Et les bitcoins sont énormément consommateurs d'énergie informatique.
Bon, c'est une parenthèse. Alors, il y a plein de gens là qui nous écoutent et qui se disent chic alors, moi je vais m'acheter des bitcoins et puis je vais peut-être faire fortune demain. Parce qu'on avait suivi, il y a quelques années, en 2018, une famille parisienne de petits boursicoteurs qui s'était lancée sur le bitcoin. C'était avec Martin Fesneau. Écoutez.
J'ai mis 200 euros. Quand j'ai 150 euros de bénéfice, je récupère mes 150 euros. Le principe, c'est de pouvoir payer ma facture de chaudière l'année prochaine. Et ensuite, j'ai pour objectif la facture de la tondeuse.
Sa fille et son compagnon, salariés dans l'informatique, ont acheté 1600 euros de bitcoin. Lui est optimiste, elle, sceptique.
Il veut être millionnaire, il veut arrêter de travailler. Mais enfin, c'est n'importe quoi.
C'est l'avenir.
Tu seras toujours dans le rêve de dire un jour je serai millionnaire. Bah, mais tu ne seras jamais millionnaire.
Au moins, madame, je rêve.
Voilà, alors il y a le rêve et puis il y a la réalité. Renaud Lévisite, vous êtes expert en cybersécurité, je le rappelle, spécialiste du Bitcoin. Est-ce qu'on peut faire fortune grâce à cette monnaie virtuelle ?
Alors, je pense qu'il ne faut pas rêver. Tout le monde ne fera pas fortune. Là, on est sur une période d'expansion qui peut s'apparenter un petit peu à une bulle, mais qu'on a déjà connu pour le coup. C'est pas un instrument sur lequel investir tout son argent, bien évidemment. C'est quelque chose quand même d'assez spéculatif. Donc ça peut être bien en complément d'autres investissements plus classiques, hein, d'or, d'actions ou d'autres monnaies. Mais il faut absolument pas mettre tout son argent dedans. Ce serait pas raisonnable. Hein. Par contre, ça contribue à la diversification, si vous voulez. Aujourd'hui, on a des économies un petit peu en crise, donc c'est un moyen aussi d'avoir d'autres actifs que des monnaies nationales.
Les chiffres de progression sont assez dingues. Hein. La valeur du Bitcoin a bondi de 175% là, depuis le début de cette année, avec une envolée de 40% depuis le 21 octobre. Et alors, quand on remonte un peu dans le temps, en février 2010, un Bitcoin, ça valait 0,003$. En 2011, ça valait 1 dollar. Entre 2012 et 2017, ça valait moins de 500 dollars. En août 2017, alors là, ça monte très fort, plus de 3000 dollars. Et aujourd'hui, ça vaut quasiment 20 000 dollars. Donc, tous les petits malins qu'on a achetés en 2010, aujourd'hui, ils ont gagné beaucoup, beaucoup d'argent, Philippe Erlin.
Tout à fait. Mais ce qu'on vient d'entendre là, dans le reportage, c'est exactement ce qu'il ne faut pas faire, c'est-à-dire penser qu'on va acheter et que dans 6 mois, on va gagner de l'argent. C'est un placement à long terme parce que le cours du Bitcoin est très volatile.
Ça peut baisser aussi vite que ça monte.
Ah oui, parce que le record qu'on a aujourd'hui, on l'a connu en 2017, en décembre 2017. Oui. Et ensuite, pendant 3 ans, le cours, il a été déprimé.
C'est comme la bourse, il faut vendre au bon moment.
Voilà, mais ceci dit, moi je crois qu'il ne faut pas réduire le Bitcoin au côté spéculatif. C'est beaucoup plus que ça. Parce qu'on peut aussi gagner de l'argent en achetant des actions Tesla ou Apple, qui ont aussi fait des super performances. Le Bitcoin, c'est aussi un instrument de liberté. C'est-à-dire, quand vous avez du Bitcoin, vous êtes en dehors du circuit bancaire. Donc, s'il y a une crise bancaire type 2008, en plus grave, avec des faillites ou des comptes bloqués,
ça fait
vous êtes protégé.
Un peu comme l'once d'or.
Voilà, ou ce qui se passe au Liban, par exemple, où les banques ont des faillites. Bon, voilà, on est protégé, un peu comme l'or. Et puis, on est en dehors de la monnaie euro. Alors, aujourd'hui, l'euro, c'est une monnaie stable. Il n'y a pas d'inflation, il n'y a pas de problème. Ouais. Mais il y a tellement d'impression monétaire qui est faite pour financer les déficits publics suite à la crise du Covid, qu'un jour ou l'autre, il risque d'avoir de l'inflation. Et le Bitcoin, c'est aussi une façon de se protéger contre ça. Mais il faut raisonner à long terme. C'est comme quand on achète de l'or physique, il faut raisonner à long terme.
Alors, dans ce genre de nouveautés, il y a toujours l'incroyable histoire. Et l'incroyable histoire de cet enfant allemand qui a aujourd'hui 19 ans et qui, à 12 ans, avec les 1000 euros de sa grand-mère, a acheté des bitcoins. À l'époque, il valait 12 dollars. Aujourd'hui, le même bitcoin en vaut donc 20 000. Et donc, il est devenu millionnaire sans quasiment rien faire en quelques années. Mais ces histoires-là, ça n'arrive évidemment pas à tout le monde. Et on verra avec vous, Alain Bensoussan, dans quelques instants, qu'il faut se méfier de ces bitcoins, car il y a aussi beaucoup d'arnaques. À tout de suite.
Europe Soir, le 18-20, Julien Bugier.
Avec la suite du débat du Club des Idées à 19h41, et on s'intéresse toujours à la folle histoire du bitcoin. Une petite pièce virtuelle qui vaut désormais près de 20 000 dollars. Mais attention, il faut s'en méfier, c'est ce qu'on disait juste avant la pause. Écoutez par exemple le ministre de l'économie, Bruno Le Maire, en février 2018, il disait ceci.
Ces crypto-monnaies, elles posent de sérieuses difficultés. La première, c'est le risque de spéculation, et donc le risque pour les épargnants. La deuxième raison pour laquelle il faut impérativement réguler le Bitcoin, c'est que nous ne savons pas où va cette monnaie, si elle peut financer des organisations terroristes, financer du trafic de drogue, Nous n'avons aucune information sur ces éléments-là. Donc il faut réguler le Bitcoin.
C'est vrai ça, Alain Bensoussan, vous êtes avocat spécialiste en droit du numérique, ça finance le terrorisme, le Bitcoin ?
Comme c'est anonyme, ça peut financer tout, à la, fois, à la fois le petit commerçant qui accepte d'être payé en Bitcoin. Vous pouvez, n'importe quelle, aujourd'hui, personne commerçante peut très bien accepter le Bitcoin.
Et c'est sécurisé si demain j'accepte d'être payé en Bitcoin, pour reprendre l'exemple du commerçant, c'est sécurisé, il n'y a pas de risque ?
Il n'y a aucune sécurité, il n'y a absolument aucune sécurité. Il n'y a pas de sécurité parce que ce n'est pas une monnaie, donc l'État effectivement n'est pas présent et donc l'État ne peut pas sécuriser. Il n'y a pas de sécurité parce qu'on ne sait pas qui intervient et qui sort, c'est-à-dire qui entre sur le marché et achète des Bitcoins et qui effectivement... En revanche, par contre, on repasse bien par le mécanisme financier, parce qu'à un moment donné, il faut bien transformer cette monnaie virtuelle, cet actif virtuel, en dollars ou en euros. Oui. S'il y a une cotation, c'est qu'il y a des entreprises qui font ce transfert, notamment ce sont ces plateformes.
Renaud Lipschitz, pourquoi vous êtes expert en cybersécurité ? Pourquoi il dit, le ministre Bruno Le Maire, on trompe les épargnants avec cette histoire de Bitcoin ?
Il faut, encore une fois, il ne faut pas voir ça comme un Far West numérique, mais comme une façon de diversifier en fait ses avoirs. Donc il ne faut surtout pas, comme on l'a dit, acheter ça et penser que dans 6 mois ou 1 an, on est millionnaire. Il faut garder ça sur le long terme. Par ailleurs, c'est quelque chose qui est totalement différent du système actuel. Donc c'est une sécurité aussi qui est totalement différente de celle de votre banque.
Oui.
Typiquement, vous détenez réellement vos avoirs, alors que la banque, elle les détient et vous permet de faire des transactions en votre nom. C'est totalement différent. Donc, il n'y a pas de filet, en fait, de sécurité. Mais c'est une très bonne sécurité. Mais par contre, vous n'avez personne qui va vous aider si jamais vous perdez vos bitcoins ou si jamais vous les envoyez à quelqu'un d'autre.
Après, si j'ai des actions et qu'elles perdent 30%, j'ai personne non plus qui me rembourse mes 30% de pertes, a priori, Philippe Erlin.
Oui, enfin, c'est fou de dire qu'il n'y a pas du tout sécurité. Il y a des moyens de protéger les bitcoins avec les clés privées qu'on a. Bon, c'est vrai qu'il peut aussi y avoir... Si l'ordinateur qu'on a est virusé, bah, on peut se faire hacker. C'est un risque qu'il faut prendre en compte. Mais c'est aussi la contrepartie du fait qu'on les possède soi-même. On est seul responsable des bitcoins qu'on le possède, alors que l'argent qu'on a dans l'assurance vie ou dans une banque, bah, si les choses vont mal, peut-être qu'on ira plus accès. Quoi.
Mais c'est un bon investissement ou c'est un mauvais investissement?
Si, moi, je pense que c'est un bon investissement.
C'est un bon investissement.
Oui, parce qu'un discours aussi qu'on dit... c'est que ça n'a pas de valeur intrinsèque, c'est faux. Le Bitcoin, c'est un système de paiement qui fonctionne depuis le début, depuis 2009, qui fonctionne très bien, avec des coûts très faibles. C'est une ressource limitée, comme on l'a dit, il y en aura que 21 millions. Puis c'est la blockchain, c'est-à-dire que ça circule sur la blockchain, c'est une base de données partagée, et ça permet de construire des services financiers. Donc il y a tout un écosystème qui est en train de se développer en France et dans le monde là-dessus, et ça crée de la valeur.
Il n'y a pas d'intérêt, si je veux échanger mes bitcoins et être payé en euros ou en dollars, récupérer mon argent, il n'y a pas d'intérêt. On peut les vendre sans espèce d'intérêt ou de frais de courtier.
Ah si, alors il y a des frais de courtage sur les places de marché quand on les vend, mais ça c'est vrai aussi quand on vend une action. Mais les frais
mais
sont...
c'est pas plus important.
Non, les frais sont très faibles.
Sont
et c'est justement l'avantage du Bitcoin, c'est qu'on peut envoyer de l'argent à l'autre bout du monde pour un coût de transaction très faible.
Il y a des taxes sur les plus-values, Alain Bensoussan ?
A priori, oui, bien sûr, ça suit le régime juridique d'un actif. Au moment où vous faites la transformation. Et c'est pour ça que, très souvent, ces transactions sont peut-être pas forcément illicites, mais en tout cas, elles ne sont pas forcément illicites, parce qu'elles elles sortent des radars de l'organisation normale nationale.
Est-ce que je suis imposé si je gagne de l'argent avec le
Bitcoin ? Oui, bien sûr. Comme tous les actifs.
Là, on est toujours dans l'ironie de l'État interventionniste, c'est-à-dire qu'on ne reconnaît pas la monnaie, mais par contre, s'il y a de l'argent à prendre, on est imposé.
C'est au moment où vous transformez des Bitcoins virtuels en quelque part en une monnaie réelle. Qui, elle, est un actif, a des sous-jacents, a une contrepartie et une garantie donnée par l'un des États, celui effectivement qui émet cette monnaie.
Si je décide d'investir, c'est quoi la bonne durée pour les garder ?
Il faut surtout se décider au moment où, après une perte, après une chute importante, on prend beaucoup moins de risques. Parce que là, si on achète au plus haut historique, on n'est pas dans une bonne position.
Il faut beaucoup d'argent là. Bitcoin, 20 000 euros.
Non, mais alors on peut en acheter des fractions, bien évidemment.
Ah, on peut
acheter un millième de Bitcoin, par exemple, pour 20 dollars. Mais ce qu'il faut faire, c'est pas en acheter pendant que tous les médias en parlent, pendant qu'on est au sommet de la vague. Il faut plutôt attendre qu'il y ait une période d'accalmie et plutôt acheter dans un creux où on est mieux positionné pour le long terme.
J'ai une question qui va peut-être vous paraître complètement farfelue, Philippe Erlin. Est-ce que demain, le groupe que personne ne connaît japonais, ou le monsieur qu'on évoquait tout à l'heure, qui est le créateur en 2008 du Bitcoin, est-ce qu'il peut appuyer sur un bouton et arrêter la machine ?
Non, ça c'est impossible, parce que justement, comme c'est quelque chose qui est partagé, dans le code du Bitcoin, il est partagé, donc personne n'a d'autorité dessus. Et puis il n'y a pas de partie secrète. sur votre ordinateur Windows, il y a une partie du code à laquelle vous ne pouvez pas accéder. Voilà. Avec le Bitcoin, il n'y a pas ce risque-là. Donc, depuis le temps qu'il existe, il a été audité largement et donc il n'y a pas de possibilité de backdoor, comme on dit, ou de possibilité de couper ça. Il n'y a aucun risque là-dessus.
Vous êtes plus nuancé, vous, Alain Bensoussan, avocat spécialiste en droit du numérique, sur l'intérêt qu'il y aurait pour un spéculateur à investir dans les Bitcoins. Pourquoi ?
Alors, il y a trois couches. Il y a une première couche qui est la blockchain, hein, celle qu'on a dit, le cahier, belle image du cahier. Celle-ci, elle est d'une hyper-sécurité. C'est, en l'état des technologies, c'est vraiment du vrai béton virtuel. Il y a une autre couche, c'est les plateformes d'échange. Et sur ces plateformes d'échange, si vous échangez avec des plateformes qui sont connues, qui sont licites, qui sont reconnues par les États, on les trouve dans différents États, et on les trouve en France, alors effectivement, vous êtes protégé. Deuxième couche. Puis la troisième couche, c'est au moment où vous faites le transfert des fonds de cette donnée virtuelle en dollars ou en euros. Vous voyez, il y a trois couches. Et donc, la première et la deuxième est très solide. La troisième est les moins. Et surtout, ce qu'il y a, c'est qu'il faut aller vers ces plateformes. C'est-à-dire qu'il faut aller ouvrir un compte sur une plateforme et faire cet échange-là. Et il y a énormément de plateformes illicites, de fausses plateformes. Et toutes les arnaques dont on a parlé, et il faut dire au grand public de faire extrêmement attention, c'est en fait des fausses plateformes de Bitcoin. C'est pas le Bitcoin dont on ne doit pas avoir de confiance, c'est la plateforme qui vous dit qu'elle vous donne des Bitcoins, qui vous donne rien du tout. Elle prend votre argent et elle vous donne rien d'autre.
Et comment être sûr de ne pas se tromper quand
il faut
on
aller
veut
sur
en
les plateformes reconnues. Voilà.
Voilà, en France, on a deux grandes plateformes qui sont en plus labellisées récemment par l'AMF, l'Autorité des marchés financiers. Oui. Donc ça, c'est le plus haut niveau de garantie qu'on puisse avoir. Si on peut citer Paymium et Coinhouse, par exemple, qui sont deux Français leaders et labellisés. Et jamais, évidemment, se fier à des publicités sur Internet ou aller sur des sites qui ne sont pas connus. Bien évidemment, ça, c'est vraiment important. Mais ces arnaques, en fait, on les retrouve dans d'autres domaines, hein, sur l'investissement dans des vaches, ou sur de l'investissement sur des panneaux solaires, et ce n'est pas du tout spécifique au Bitcoin. Mais bien évidemment, comme il y a de l'argent, il y a des escrocs derrière.
Bien, et on donne le conseil qu'on donne à tout bon investisseur. Quand on investit de l'argent, il ne faut pas espérer le revoir avant après-demain. Il faut même...
Émettre de l'argent qui n'est pas strictement nécessaire à son train de vie.
Voilà, il faut pouvoir le perdre, pour dire les choses clairement. Merci à tous les trois pour ces clés de compréhension. J'espère que vous avez tout compris, vous qui nous écoutez, à cette folle aventure du Bitcoin. 19h49, on se retrouve dans quelques secondes avec les archives d'Europe Soir. On vous emmène ce soir sous la Manche. Vous allez comprendre pourquoi, tout de suite.